Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpino.
C'est parti!
Bienvenue dans notre série d'été. Cette semaine, on revient sur l'histoire d'un courant musical crucial pour le féminisme et fort en gueule, les Riot Girls, grâce à la sortie d'un livre qui retrace leur parcours.
Alors c'est à la journaliste Mathilde Carton qu'on doit ce livre, un super bouquin, vraiment joliment écrit. Le titre, c'est Riot Girl Revolution Girl Style Now, et c'est aux éditions Le Mot et le Reste. Franchement, même pour celles qui croyaient tout savoir des Riot Girls, parce que par exemple, elles avaient lu le livre de Manon Labrie sorti chez Zone en 2016, on en apprend quand même de belles. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai appris de belles. Et ce livre, c'est l'occasion de se replonger, comme tu le disais, dans cette révolution punk féministe anticapitaliste qu'étaient les Riot Girls, avec des chansons misandres qui parlent de viols systémiques, de violences de genre. Bref, si on aime les acouphènes, les hurlements avec batterie et le son bien trash, il faut lire ce livre et on te fait un petit récap.
Oui, alors pour planter le décor, on est donc dans le nord-ouest des États-Unis et le livre part d'abord d'un personnage haut en couleur, c'est Kathleen Hanna, donc quelqu'un qui a grandi entre un père violent et une mère qui naviguait un peu en sous-marin et lui apprenait en fait à être féministe, qui l'emmenait voir des films de John Waters au cinéma, qui s'est abonné à Mrs. Magazine, donc le magazine féministe de Gloria Steinem, pendant que la petite Kathleen se fabriquait des posters avec des images découpées, donc c'est extrêmement mignon. Et on apprend que dans sa formation de Riot Girl, elle a en fait commencé par le slam et par les arts plastiques à l'université d'Olympia où elle s'est inscrite. Alors Olympia, c'était une université vraiment pas comme les autres, où le grunge et donc le punk qui venait d'Angleterre vont faire des émules. Et pour l'anecdote, sa première exposition va être censurée car jugée trop provocatrice. Elle avait lieu donc à l'université et c'était des photos d'elle enfant en bikini mangeant une glace avec le mot slut écrit trois fois. On apprend aussi qu'à cette époque, elle va faire une rencontre qui est très formatrice avec l'autrice féministe Kathy Acker, à qui elle va déverser un certain nombre de propos misandres jusqu'à ce que son idole lui dise en fait arrête la poésie parce que personne n'aime le slam. Il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse à la musique, tu devrais monter un groupe. Et là, voilà, ça fait tilt et c'est le début du grabuge. We're Bikini Kill and we want revolution! Girls
don't know! Ouais, et puis c'est un peu comme la construction d'une super tempête entre cette invitation de Kathy Acker et l'époque, puisqu'on est au début des années 90. Et à l'époque, féministe, c'est toujours un gros mot. Le Cosby Show passe crème, Weinstein produit des films. Tranquille, il faut pas oublier que le 6 décembre 1989, à Montréal, a eu lieu un attentat antiféministe qui a semé la panique dans toute cette génération de jeunes femmes héritières du féminisme de leur mère et de leur grand-mère. Il faut savoir qu'à l'époque, une femme sur quatre subit un viol au cours de sa vie et toutes les 15 secondes, une femme est frappée par son compagnon. La journaliste le rappelle dans le livre. Et donc, on se situe deux générations après les grandes victoires féministes des années 70 et on peut parler de retour de bâton, de backlash. On avait fait un épisode, Clémentine, il y a quelques mois sur le backlash. Et ça a été donc très intense pour les filles de la génération de Kathleen Hanna. Et c'est aussi ça qui va mettre le feu aux poudres dans son grand cœur de féministe.
Et alors, pour contextualiser aussi l'environnement musical, évidemment, il y a déjà eu le mouvement punk et du punk féminin qui venait d'Angleterre, notamment les Slits, Siouxsie and the Banshees, etc., etc. Mais aux États-Unis, on est à un moment où la musique est vraiment dominée par des groupes masculins et où les filles vont dire, en fait, on n'est pas là pour baiser le groupe, on est le groupe. Et donc, ce sont des jeunes filles qui n'ont pas forcément de formation musicale. Et c'est le cas d'ailleurs de Kathleen Hanna, qui va dire aux jeunes filles de se mettre à l'avant dans des concerts qui sont toujours trustés par des pogos masculins et qui va dire aux mecs de la fermer. She was just screaming at the top of her lungs. There's veins sticking out of her neck.
Don't need you to stay inside. Don't need you to chill. Don't need you to do.
It was the first time I'd seen a woman on stage completely angry, aggressive, doing stuff that you kind of see guys do. And it was amazing.
Et donc à Olympia, il y a tout un tas de groupes qui gravitent autour de cette université et autour d'un certain nombre de musiciens. Et notamment, il y a le futur groupe Nirvana, puisque Kurt Cobain est un très bon ami de Kathleen Hanna. Et d'ailleurs, c'est elle qui a trouvé la phrase « smells like teen spirit ». Donc, rendons aux Riot Girls ce qui est aux Riot Girls.
C'était un parfum qui pue, le teen spirit, je crois.
Oui, c'est ça, un déodorant qui pue. Et d'ailleurs, Kurt Cobain sortait avec une fille de ce mouvement et c'est comme ça qu'il est devenu féministe. Donc, gloire à elle. D'ailleurs, on va voir comment ces groupes-là ont connu des destins assez divergents, finalement. Mais pour revenir à l'origine du mouvement Riot Girl, au départ, c'est vraiment un tout petit courant qui va prendre ensuite son essor à travers des tournées qui vont avoir lieu aux États-Unis et en Europe, et aussi des rassemblements. Et donc, le mot « riot », ça veut dire « émeute » en anglais.
Ouais, ce qui est assez fascinant, et c'est vraiment chouette de le lire dans le livre, c'est qu'on est à une époque où, c'est con, hein, mais il n'y a ni Internet ni réseaux sociaux, et pourtant, elles arrivent à construire un réseau underground qui prend de plus en plus d'ampleur, que ce soit Bikini Kill, donc le groupe de Kathleen Hanna, ou Theater Kinney ou Brat Mobile. Elles ont organisé leur évolution en utilisant le papier. Aujourd'hui, ça nous semble tellement... tellement fou. Donc le papier et les voyages en train à travers tout le pays. Elles vont produire une littérature de fanzines, de textes pro-IVG contre les violences sexuelles, l'objectification des femmes. Elles vont aussi prôner la sororité en organisant des groupes de parole et aussi, et c'est très important, des ateliers de sabotage ou de crevage de pneus de flics. Et ce mouvement fait pleinement partie de la troisième génération, la troisième vague du féminisme, car il inclut aussi la culture, évidemment. On a dit, il y a Bikini Kill, le groupe de Kathleen Hanna, mais aussi Brat Mobile, Heavens to Betsy. Et dans le livre, on voit comment tous ces groupes qui naissent côte ouest ou côte est, se nourrissent les uns les autres, comment elles bossent ensemble, comment elles se citent les unes les autres et comment elles se retrouvent un peu dans les concerts où elles mixent leurs textes. Enfin, c'est assez chouette à lire.
Oui, alors ce sont des filles qui s'habillent soit en fillette, soit avec des écrases-merdes, donc des grosses docks, qui écrivent « slut » ou « inceste » sur leur ventre lors de concerts. Et il faut bien rappeler qu'à ce moment-là, la presse va totalement passer à côté du mouvement Riot Girl, qui a été réapprécié, en tout cas aujourd'hui, a posteriori. Et donc, les médias ne comprennent pas du tout ce qui se passe, ce qu'elles font, ce qu'elles disent, et vont les traiter vraiment comme des gamines, comme des Barbies, au lieu de les prendre au sérieux. Et en fait, on assiste réellement à une sorte de Me Too de la musique avant l'heure, puisque ça se passe évidemment très mal, de ces groupes féminins, les mecs les insultent en concert, les techniciens se moquent d'elles backstage, il y a des bagarres qui éclatent, des producteurs qui ne les prennent pas au sérieux. Et puis, elles-mêmes sont dans une forme de pureté militante que malheureusement, personne ne peut atteindre.
Oui, et ça va avoir des conséquences, hein, parce que cette pureté militante a pour effet que le mouvement des Riot Girls n'a pas d'organisation à proprement parler, évidemment pas de hiérarchie, qu'elle refuse les compromis et l'échec des maisons de disques, contrairement à Nirvana. Ouais. Et qu'elles font un peu tous les rôles. Elles sont impresario, elles gèrent la com, la gestion des tournées. Et c'est relativement le chaos au quotidien. Et pour Bikini Kill, en tout cas, c'est le chaos sur la longueur, tout comme Brat Mobile, dont plusieurs membres vont se retrouver à l'hôpital à cause du surmenage.
Et finalement, la fatigue aidant et la pression du monde extérieur étant de plus en plus violente, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des violences sexistes pendant les concerts, avec jets de projectiles, menaces de mort, etc. Et aussi la pression à accepter beaucoup trop de dates de concerts. Donc toute cette pression médiatique fait que les groupes vont finir par exploser les uns après les autres. Par exemple, Brat Mobile va arrêter en 94 après la sortie d'un album et reprendre vite fait en 99, puis se reséparer. Bikini Kill, de son côté, se sépare en 97, etc.
Et autre problème et de taille, c'est un gros souci quand même de blanchité dans le mouvement Riot Girl. Il y a un gros problème d'intersectionnalité. C'est un mouvement évidemment trop blanc et trop monolithique dans ses textes. D'ailleurs, Mathilde Carton mentionne cet énorme problème et le mentionne pas du tout à la marge. Elle dit « Si les Riot Girls trouvent sans mal ce qui les rassemble, elles n'arrivent pas forcément à parler de leurs différences. Elles héritent d'un problème propre au féminisme des années 70 qui, à force de parler de sororité ou de libération des femmes, passe à l'as les différences socio-économiques et ethno-raciales. En effet, il se trouve que beaucoup de femmes racisées à l'époque ne se retrouvaient pas du tout dans le mouvement des Riot Girls, dans le mouvement qui soit physique, donc c'est-à-dire les concerts et les groupes de parole, ou même dans les textes. Elles se bornaient justement à s'exprimer dans la version papier du mouvement. On entend dans le livre l'analyse de la prof de genre Mimi Tien Nguyen, productrice de fanzine, qui a analysé cette mise à distance qu'avaient opéré les filles racisées à l'époque et qui ne voulaient pas entendre sur scène des mots comme « Nous ne formons qu'une seule race, la race humaine bon, ». C'était un truc qu'on entendait un peu partout à l'époque et aussi dans les chansons des Riot Girls. Ou bien « Sisters, we are one ». La prof de genre a compilé en 97 un recueil de 73 fanzines qui illustrent bien le clivage entre le mouvement Riot Girl blanc et les féministes racisées. Elle dit « Il fallait reprendre le contrôle de la conversation sur la race et le recentrer sur notre expérience. Nous ne sommes plus des victimes sans voix ni les objets à sauver du discours punk antiraciste blanc, mais des sujets essentiels et des acteurs politiques. »
D'ailleurs, Mathilde Carton raconte aussi un épisode dans lequel le groupe Speed Boy, qui est formé par des féministes latino-américaines, ont dit « Nous ne sommes pas des Riot Girls ». Et elle donne aussi le point de vue de Kathleen Hanna, qui a, semble-t-il, pleinement pris conscience du problème et qui disait « Est-ce que le visage du mouvement Riot Girls était blanc ? Oui. Est-ce que les dessins des fanzines représentaient des filles blanches ? Oui. » Est-ce que je regrette d'avoir écrit des paroles comme « mange de la viande, déteste les noirs, tape ta putain de femme, c'est la même chose » Oui. Parce que ce n'était pas une façon intelligente de parler d'intersectionnalité, je le regrette. Voilà, merci à elle pour ce mea culpa tardif.
Ouais, très tardif, mais bon. On peut quand même dire que malgré cet énorme écueil, il y a eu un héritage quand même des Riot Girls. Énormément de groupes se revendiquent héritières du mouvement. On trouve un peu de Bikini Kill dans Sexy Sushi, dans les Spice Girls, qui figure le girl power dans sa version commerciale et pas systémique. Il y a aussi Alanis Morissette et Fiona Apple qui descendent un petit peu de ce mouvement. Et évidemment, on ne peut pas ne pas citer Gossip et Peaches. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time, that Bondi, check out my Chrissy behind, it's fine all over the time. What else is in the teachers of Peaches? Like sex on the beaches, what? Deux groupes et deux chanteuses surtout, qui ont beaucoup de Riot Girl dans leur sang. On peut aussi rappeler que le groupe russe Pussy Riot s'est inspiré des Riot Girls en allant hyper loin dans la provoque, puisqu'elles ont été en prison.
Oui, et notamment en se mettant des cagoules sur la tête, comme le faisait parfois Kathleen Hanna. Et donc, la ville d'Olympia, qui existe toujours, a continué de produire des artistes, des chanteurs et des chanteuses à la marge. C'est le cas de Beth Ditto, tu le disais, qui est donc la chanteuse de Gossip. Il y a aussi des chanteuses qui sont en apparence assez éloignées du mouvement Riot Girl qui s'en revendiquent aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, de Miley Cyrus, ce qui n'est pas inintéressant. Qu'est-ce que tu as pensé, du coup, de ces livres ?
Perso, j'ai découvert Bikini Kill et Le Tigre vers 2015, donc bien après Peaches et Sexy Sushi, dont je suis archi fan. Et évidemment, ça a été un gros coup de foudre. Je me suis prise de passion pour cet enchevêtrement de sons, de cris, ces instruments torturés, ces gros acouphènes de guitare un peu dégueulasses, mais qui font trop plaisir. Et surtout, des paroles hyper puissantes qu'on n'entend nulle part ailleurs. Après ça, après la musique, j'ai adoré les zines. Leur contenu et leur distribution underground, je la trouve hyper inspirante. J'ai des amis qui ont monté des zines et je trouve que c'est un super moyen d'atteindre les gens et d'égaliser l'accès à l'écriture. Mon titre préféré de Bikini Kill, c'est Rebel Girl. « comme on dirait vraiment une chanson d'amour lesbienne. Genre, je te kiffe, t'es tellement rebelle. On adore, je voudrais que tu sois mon amie pour toujours. On adore. Bon, après, je peux pas tenir trop longtemps parce que ce serait un coup à tachycarder. Mais bon. Et sinon, je suis quand même archi fan de Tout le Tigre. Le Tigre, c'est le groupe qu'a monté Kathleen Anna après Bikini Kill. Surtout la reprise de I'm So Excited. Je suis aussi fan de Men, monté par J.D. Samson, qui était compagnon de Kathleen Anna sur Le Tigre. J'avais eu la chance d'ailleurs de l'interviewer pour le numéro 3 de Well, 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 et d'interviewer aussi Joanna Fettman et Bess Ditto. Joanna Fettman, qui était aussi une Riot Girl. Bref, tout ça pour dire que vraiment ce mouvement est trop kiffant. Et toi ?
Moi, j'ai pas du tout grandi avec les Riot Girls, malheureusement, mais je les ai découverts vraiment sur le tard aux États-Unis, à Austin, lors d'un festival qui passait un documentaire qui s'appelle The Punk Singer, qui est un documentaire donc sur Kathleen Anna. Par ailleurs, une amie m'avait aussi offert un beau livre avec tous les fanzines Riot Girls, donc ça, c'est je le garde très précieusement.
Et t'as des super amis.
Ouais. Et comme toi, je les ai aussi découverts à travers Le Tigre, tu l'as dit, donc qui a été l'un des groupes de Kathleen Anna, aussi à travers Men, le groupe de J.D. Samson, qui a d'ailleurs une chanson sur la PMA qui s'appelle Credit Card Babies, que je vous recommande. Moi, j'ai eu la chance de voir en concert Slater Kinney. Et aussi Bikini Kill, qui s'est reformée à Londres il y a 2-3 ans. C'était fou, même si elles sont un peu vieilles aujourd'hui. Franchement, il y avait une super ambiance. J'ai aussi interviewé Carrie Bronstein, qui est donc une des musiciennes de Slater Kinney et actrice de Portlandia. Bref, en tout cas, j'aurais vraiment aimé y être à l'époque. Je trouve qu'elles ont une énergie vraiment vénère et une volonté d'en découdre qui est assez admirable, qui perdure vraiment aujourd'hui. Kathleen Anna, c'est quelqu'un que j'admire énormément, qui en plus lutte avec la maladie de Lyme. Et il faut savoir qu'elle a monté récemment un autre groupe qui s'appelle The Julie Ruin. Voilà, je vous invite à les suivre. Dans le livre, c'est vrai que ce qui m'a rendu trop triste, c'était les disputes avec Courtney Love, qui est vraiment une espèce de concurrence déloyale des Riot Girls, qui vient un peu semer la pagaille. Voilà. Et je trouve que, effectivement, cet héritage politique qui dénonce des discriminations systémiques ne se retrouve pas toujours aujourd'hui chez des groupes qui ont une vision parfois un peu individualiste de ces problèmes et un peu trop commerciale. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres références à recommander autour des Riot Girls pour en savoir plus?
Yes, alors on a déjà cité le livre de Manon Labrie aux éditions de La Découverte, qui est très complet, qui est universitaire, mais qui est très complet, du coup. On peut aussi citer, bah, comme tu l'as fait, le documentaire Riot Girls et The Punk Singer. Et récemment, sur Netflix, on a pu voir le film un peu mignon de Amy Poehler qui s'adresse plus ou moins aux adolescentes, qui s'appelle Moxie.
Maman, quel sujet importe aux filles de 16 ans ?
Quand j'avais 16 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était démolir le patriarcat et tout brûler sur mon passage.
J'y crois pas. Les filles constituent une force révolutionnaire.
Il a été jugé un peu trop gentil pour son application Bon élève du politiquement correct de 2021. Mais c'est hyper rafraîchissant, donc ça montre des adolescentes dans un lycée qui font un peu la révolution antisexiste et qui font des fanzines parce que l'une des mères de ces adolescentes était fan des Riot Girls, donc c'est un peu mignon. Et en plus, il y a un groupe de lycéennes californiennes, les Linda Lindas, qu'on découvre dans ce film, qui sont vraiment les dignes héritières des Riot Girls.
A little while before we went into lockdown, a boy in my class came up to me and said that his dad told him to stay away from Chinese people. After I told him that I was Chinese, he backed away from me. Eloise and I wrote the song based on that experience.
So this is about him and all the other racist, sexist boys in this world.
J'imagine que leur base d'apprentissage de la guitare basse, c'était les Riot Girls et non pas Nirvana et Come As You Are. C'est archi mignon. Notre cœur est tout attendri. Et sinon, dernière actu, le nouvel album de Slater Kinney, Path of Wellness, qu'il faut écouter.
Oui. Alors, vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire à propos des Riot Girls sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Quant à nous, c'était le dernier épisode de la saison. On vous souhaite un très bon été et on se retrouve à la rentrée. Reposez-vous bien.
Bon été!
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Anne-Laure Pinault,
mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son Thibaut Delage à l'arrière-boutique, réalisation, montage et coordination Ashley Tola.